Bonsoir chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, émission dans laquelle j'ai la joie de recevoir des habitués de ce micro, Jean Hernis. Bonsoir Jean Hernis.
Bonsoir Adrien, bonsoir chers auditeurs et une bonne Saint-Valentin à tous nos auditeurs qui nous écoutent.
Effectivement, je n'y avais pas pensé. François Charmeau.
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à Jean Hernis avec qui je suis ravi de passer cette Saint-Valentin.
Et Xavier Aimant, patron d'émission sur Radio Courtoisie, chroniqueur régulier dans Ligne Droite, rédacteur en chef d'Éléments.
Bonsoir à tous, et bon voilà, je suis un peu vexé d'être exclu de la Saint-Valentin de François Charmeau et de Jean Hernis, mais bon, tant pis, je vais essayer de m'en remettre.
Tout d'abord, j'aimerais commencer par, je vous ai nommé comme rédacteur en chef d'Éléments, par parler de votre nouveau numéro, Xavier Aimant.
Ben, je vous remercie de me donner l'occasion, en effet, de présenter ce numéro à l'antenne pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, c'est le numéro 218 de cette honorable revue qui est la revue Éléments, la revue pour la civilisation européenne. Le numéro qui est actuellement en kiosque présente en couverture Mathieu Bock-Côté, le journaliste et chroniqueur conservateur bien connu, je pense, des auditeurs de Radio Courtoisie, car François Bousquet lui consacre un grand portrait qui retrace le parcours de ce journaliste québécois qui maintenant a fait ses armes en France. Donc ça, c'est la couverture, mais évidemment beaucoup d'autres choses dans ce numéro, avec notamment un dossier qui me paraît particulièrement intéressant et dont peut-être on aura l'occasion de reparler dans les divers sujets de cette émission, qui est consacré à l'État. Faut-il être contre l'État? Faut-il être pour l'État? Qu'est-ce que l'État aujourd'hui? Donc ce dossier est intitulé Contre l'étatisme, repenser l'État. Également dans ce numéro, une entrevue avec Michel Onfray, un article aussi, là aussi, tout à fait d'actualité et très intéressant, d'Alain de Benoît qui revient sur la question du judéo-christianisme, qui remet en cause ce concept dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui voudrait que nous soyons issus d'une civilisation judéo-chrétienne.
Même Éric Zemmour a fait un petit
opuscule là-dessus. C'est sans le nommer un peu une réponse à cet opus, entre autres, hein, ça dépasse ce cadre circonstanciel, mais en effet, comme on entend beaucoup parler de cette terminologie judéo-chrétienne, ben, de Benoît, avec évidemment l'érudition qu'on lui connaît, revient sur cette question pour démontrer que nous sommes héléno-chrétiens bien plus que judéo-chrétiens. Donc un numéro, encore une fois, d'une grande richesse. Je vais citer rapidement parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps de votre émission pour faire ma publicité, si je puis dire, mais pour donner envie, en tout cas aux auditeurs, de se procurer ce numéro 219. Il y a également un article assez conséquent de Bernard Lugan qui revient sur une de ses marottes, si je puis dire.
Laquelle?
Celle de la colonisation et de ses conséquences aujourd'hui. Cet article s'intitule « L'universalisme contre les peuples ». Une chronique d'un autre habitué de Radio Courtoisie qui est François Devoyer
Habitué de cette émission.
Et de cette émission également, tout à fait, qui revient lui sur le phénomène « Nicolas qui paye ». Vous savez, ce mouvement qui est parti d'un mème sur les réseaux sociaux pour en fait mettre en avant cette figure un peu du trentenaire français de souche qui se voit spolié un peu de tous les côtés, exploité par les boomers devant régler l'addition de l'immigration et de ses conséquences.
Phénomène qui a un peu disparu, non, quand même?
C'est un phénomène qui est retombé, mais qui a quand même eu une certaine importance et qui peut-être n'est qu'un ballon d'essai de mouvements de contestation futurs. Donc c'est ce sur quoi se penche François Devoyer dans cet article. Et on a aussi pas mal de choses, des choses plus légères. On a un grand article sur l'histoire du catch, par exemple, hein, pour les gens qui s'intéressent à cette pratique sportive qui est venue des fêtes foraines pour devenir en fait aujourd'hui un spectacle mondialisé et très très populaire dans certains milieux. Également une interview un peu sur prenante de Louis Rego, qui est donc... Qui est... vous ne savez pas qui est Louis Rego?
Non. Voilà. Le Charlot.
l'un des charlots, vous savez, connaissez les charlots.
Oui.
Et ben voilà, un des membres de cette troupe cinématographico-théâtrale qui répond à des questions de Daoud Bouguezala sur son parcours, sa vision du métier, de l'évolution de l'humour, etc., etc. Donc voilà, un numéro encore une fois où chacun pourra trouver son miel, je pense, et donc j'invite les auditeurs à le découvrir en kiosque ou sur notre site internet consacré, qui lui aussi est non seulement consacré à la revue, mais qui propose des articles quotidiennement.
Vous qui êtes modeste, vous avez mis en avant plein de personnes, mais est-ce que vous avez participé à la rédaction de certains dossiers ou articles dans ce numéro ? Ou juste votre chronique habituelle ?
Non, je participe à certains dossiers, notamment au dossier sur l'État. Avec un article qui est plutôt une défense de l'État comme dernière ligne de défense entre l'individu et le marché, malgré tous ses défauts, malgré toutes ces faillites actuelles que chacun peut constater, je pense que l'État est aujourd'hui quand même le garant d'un certain nombre de droits, notamment dans le domaine du travail et de l'économie, qui auraient vite fait d'exploser s'il n'était pas là et si on se soumettait uniquement aux règles du marché. Sinon, il y a évidemment ma chronique, la chronique d'une fin du monde sans importance. J'ai fait aussi divers petites recensions d'ouvrages.
Très bien. Ben, nous parlerons sans doute de l'État un peu plus tard dans l'émission. Je voulais aussi commencer cette émission pour assurer la famille de Quentin, ce jeune homme, ce jeune Lyonnais qui a été tabassé jeudi soir et qui se trouve en état de mort cérébrale actuellement. D'assurer sa famille de nos pensées et de nos prières. Je pense que l'actualité médiatique commence déjà à saturer de ce drame. Il y a bien sûr un impératif à condamner les auteurs de cette violence. Je pense que politiquement, cela va enflammer beaucoup les débats. Mais avant d'en arriver à ces extrémités qui sont toujours un peu désagréables, à remuer un peu ces choses qui sont pas très belles, voilà, assurer la famille de nos pensées, de nos prières. Donc je sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter, mais je pense que voilà, nous ne ferons pas comme certains à faire toute une émission là-dessus.
Simplement rappeler qu'il y a des rassemblements partout en France actuellement pour saluer la mémoire de ce jeune homme, plusieurs groupes nationalistes, demain notamment à Paris, place de la Sorbonne, un rassemblement.
À 16h,
merci. Et inviter les gens à ne pas tomber dans une surenchère sur les réseaux sociaux qui n'entraîne rien de bon. Et nous, comme vous l'avez dit très justement, Adrien, toutes nos pensées, nos prières pour cette famille et ses proches camarades.
Oui, une famille d'ailleurs qui, Quentin était un jeune converti qui a lui-même converti sa famille et était le parrain de son père. Donc voilà, pour les catholiques c'est quelque chose d'assez important. François Charmeau.
Peut-être évidemment, en restant dans ce cadre de l'hommage, il est important d'avoir une pensée, effectivement, de rendre hommage à ce jeune homme, et qui est le symbole aussi d'une jeunesse finalement qu'on diaphadie par les réseaux sociaux, qu'on tient endormie, mais chaque nouvel événement dans la rue, lié évidemment à la politique, vient nous rappeler qu'il existe encore dans ce pays une jeunesse qui a soif d'idéal, qui a soif d'action, qui a soif de réalité, qui a soif de militantisme. Et je crois que ça, c'est un message qu'il ne faut pas oublier, et que ce qui arrive à ce jeune homme vient nous rappeler simplement comme une forme de réalité inexorable. Et en ce sens, il est important je crois que c'est Jean Edgana qui parlait du fait qu'il fallait transformer cette déception en mouvance, en action radicale. Je crois que on peut souscrire largement à ce propos et simplement souligner encore une fois la beauté de cet idéalisme lié à la fougue de la jeunesse, mais qu'il faut savoir entretenir, cultiver et ne jamais finalement perdre.
Xavier Aymon.
Oui, beaucoup de peine évidemment pour ce jeune garçon qui avait la vie devant lui. Là, le temps est évidemment au recueillement, à l'hommage, à la prière. Viendra sans doute après plus de questions, en effet, peut-être d'analyse politique et de réflexion sur cette violence politique de plus en plus prégnante. Un peu de colère aussi, évidemment, vis-à-vis des auteurs de ce lynchage. Bon, il faut espérer que la justice, pour une fois, fasse efficacement son travail. On peut toujours espérer. C'est indispensable d'ailleurs, ne serait-ce que pour apaiser éventuellement une situation qui peut être tendue. Voilà, beaucoup de peine, la seule chose, et beaucoup de colère aussi contre tous les gens qui ont, je pense, par leur discours conduit à ce genre de choses. Et je pense à la logorée antifasciste qui est rabâchée depuis des dizaines et des dizaines d'années en faisant du prétendu fascisme le mal absolu, un mal contre lequel on peut utiliser tous les moyens. Et ben il y a des gens un peu plus incultes et un peu plus bêtes que les autres qui prennent tout ça au pied de la lettre et qui pensent qu'en effet on peut tout faire, on peut aller jusqu'au lynchage et jusqu'au meurtre contre des gens qu'on considère comme fascistes. Donc il y a de nombreuses responsabilités, mais en effet il est peut-être trop tôt pour en parler pour l'instant. Contentons-nous en effet d'exprimer notre solidarité envers la famille de ce jeune militant et ses proches.
Merci beaucoup messieurs. Vous parliez de ce climat de violence politique dans notre pays. Il y a une autre chose qui traverse notre pays, c'est plutôt sa tiers-mondisation, le délabrement de l'État. Vous parliez aussi de l'État auquel vous consacrez un dossier dans la revue Élément, Xavier Aimant. On a appris il y a peu que la France s'enfonçait dans un classement mondial. Vous savez, il y a toutes sortes de classements. Il y a le classement sur le niveau de mathématiques, sur le niveau de lecture, et puis il y a un classement mondial sur la perception de la corruption. Et c'est un classement qui est produit par une ONG, Transparency International, et qui a alerté mardi 10 février sur l'aggravation de la corruption dans les démocraties dans le monde. Alors nous, ça nous étonne pas forcément beaucoup, mais il est assez notable de voir que la France a été rétrogradée à la 27e position, qui est son niveau le plus bas historiquement, et qui nous place derrière des pays comme l'Uruguay ou les Émirats Arabes Unis. Donc je trouve ça assez éloquent. Donc juste pour expliquer un peu aux auditeurs de Radio Courtoisie comment fonctionne ce classement, c'est un indice de perception qui est établi par cette ONG en fonction du niveau de corruption perçu dans le secteur public et sur la base de données provenant d'institutions telles que la Banque mondiale et le Forum économique mondial. Donc voilà, là, les autres autorités du monde contemporain alertent sur l'état de la France. Le rapport est expliqué par certaines personnes, notamment le directeur général de Transparency International France, Florent Clouet, et il dit que ces mauvais résultats de la France sont assez largement dus à des affaires de corruption très médiatisées, qui du coup transparaissent dans les journaux. La condamnation de Marine Le Pen dans l'histoire des assistants parlementaires européens, la prison pour l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et un rapport du Sénat, qui publie en mai, qui a également révélé que le gouvernement français, avait couvert une fraude à la consommation commise par le géant agroalimentaire Nestlé, permettant à l'entreprise d'utiliser des traitements interdits pour produire des eaux minérales naturelles, dont Perrier. Qu'est-ce que vous évoque ce classement sur la corruption ? Est-ce que vous pensez que ce genre de classement est significatif de quelque chose ? Est-ce que vous pensez que les raisons qui sont mises en avant dans le rapport sont de bonnes raisons ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres problèmes plus structurels dans l'état de la corruption en France ? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut se lancer en premier.
Je vais bien commencer.
Jean-Yernis.
Déjà, la corruption, c'est un problème qui soucie de nombreux Français, de nombreux Français. On estime que 7 Français sur 10 s'inquiètent de la corruption dans le pays, donc c'est quand même énorme, on est sur une immense majorité, et on n'a pas attendu cette ONG pour s'en inquiéter. Vous l'avez dit justement, Adrien, le Sénat a fait un rapport. On est très fort dans les rapports en France, parce qu'on a également la Cour des comptes qui a émis un rapport en décembre 2025, donc il y a juste quelques semaines maintenant, où on émettait toute une série de recommandations et de mesures à mettre en place. Et l'État a également promu un plan pluriannuel de 5 ans, donc de 2025 à 2029, avec 36 mesures pour lutter contre la corruption. Ce qui est marrant, c'est que parmi les mesures, j'ai imprimé ça, on a des mesures qui s'adressent à l'étranger, donc c'est un petit peu hypocrite de s'attaquer à l'étranger alors qu'on a déjà tant de choses à faire au niveau de la France. Le rapport s'attarde également au secteur privé, mais là où c'est le plus problématique au final, c'est au niveau du secteur public, visiblement, où on a très peu de mesures concrètes qui sont engagées pour lutter contre la corruption, malgré des déontologues qui sont présents dans toutes les institutions aujourd'hui, mais des déontologues qui ne servent apparemment à pas grand-chose. On a de plus en plus de signalements, notamment des signalements Tracfin, dès qu'on a des mouvements financiers qui augmentent, mais qui sont assez peu... qui sont assez insuffisants selon la Cour des comptes. Et surtout, le plus inquiétant, c'est que les sanctions pénales ne sont pas appliquées. C'est-à-dire qu'en fait, on constate des choses, mais derrière, on reste sur des sanctions administratives. Et la haute autorité n'a pas de pouvoir de sanction, ce qui fait qu'en fait, on ne craint rien, quoi. On a une chaîne judiciaire qui est sous tension, qui a du mal. On sait que la justice en France est lente, elle est surchargée. Et de ce fait, en fait, ça profite aux affaires, ça profite aux corrupteurs. Et on est bien mal embarqué, j'ai envie de dire.
Florent Clouet, qui est le directeur de Transparency International France, affirme que le problème le plus important, selon son association, c'est le manque de volonté politique. Il n'y a aucune volonté politique dans la lutte contre la corruption. François Charmeau, vous pensez que le problème, c'est juste une histoire de volonté politique ou de perte de repères dans la société, de sens moral, de probité, comme le disait très bien Joannis, de manque de moyens? Souvent, les manques de moyens sont dus au manque de volonté, mais...
Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je crois que c'est important, quand on voit ce genre de rapport, d'apporter sans doute un regard critique en faisant un pas de côté, de la même façon que nous l'avons eu fait à ce micro à propos des agences de notation. À l'époque, nous avions évoqué la question de la dette et de la notation de la France quant à sa capacité de remboursement. Eh bien, les questions que nous avions posées étaient finalement à qui profite le crime, à qui profite la note, à qui profite le classement, qui les met réellement. Je me plais à croire que potentiellement tout ce qui vient de l'international occidental, tout du moins, est sans doute potentiellement, en tout cas, peut-être sous influence de l'oncle Sam, qui, chacun le sait actuellement, n'est pas forcément très favorable aux pays européens et encore moins à la France. Ceci dit, ça n'enlève rien à une réalité bien française, qui est celle de la corruption. Mais là encore, je crois que c'est compliqué de parler de corruption sans chercher à le définir. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de soudoiement ? Donc très vulgairement, de fonctionnaires qui prennent un billet pour rendre tel ou tel service. Est-ce qu'on parle de service rendu ? À ce moment-là, on parle peut-être de cooptation, de confrérie opaque, occulte, qui existerait au sein même de la République. Ça serait franchement fort étonnant. Est-ce qu'on parle de conflit d'intérêts ? Est-ce qu'on parle de malversation ? Voilà, tout ça, ce sont des questions importantes. L'exemple du procès des assistants parlementaires du Rassemblement National, typiquement, c'est sans doute très grave, mais je ne vois pas en quoi c'est potentiellement de la corruption. C'est du détournement de fonds publics, ce qui est très grave, parce qu'on pique littéralement l'argent des contribuables, l'argent des travailleurs. Donc oui, c'est pas normal, oui, c'est condamnable, mais techniquement, je pense qu'il y a débat sur le fait de qualifier ça de corruption, mais pas sur
le fait. C'est un rapport qui pointe la perception des gens. Donc je pense que, étant donné qu'on parle beaucoup de quelque chose qui fait scandale, on a le droit de dire, même si par ailleurs on peut soutenir certaines idées qui sont défendues par le Rassemblement National, qu'ils n'ont pas forcément les mains propres et la tête haute, comme le slogan le disait autrefois.
Le détournement de fonds publics a un pacte de corruption, souvent.
Ils ont probablement fait n'importe quoi avec l'argent public. La justice l'a déjà dit une fois. Elle le redira ou pas, mais sans doute cet été.
Et puis c'est pas les seuls. Rassurer les auditeurs de Radio Courtoisie.
Et c'est loin d'être les seuls. C'est peut-être les seuls à s'être fait attraper cette fois-ci. Mais revenons-en peut-être plus largement à cette question de la perception de la corruption. Je crois que le problème, il est aussi, si on parle d'opinion publique, dans le fait que, à l'instant même où on creuse réellement un sujet, on s'aperçoit qu'il y a non pas nécessairement de la corruption, j'allais dire, vulgaire, grossière et brutale, comme on peut la retrouver dans certains pays, notamment de l'ex-bloc soviétique, mais il y a une manière bien française, une exception culturelle de se rendre service. Exemple parfait dans l'actualité, évidemment, la commission parlementaire en cours sur l'audiovisuel public.
Bien sûr.
Où, j'enfonce une porte ouverte, mais malgré tout, je le rappelle aux auditeurs qui seraient passés potentiellement à côté de la formation, on découvre, chemin faisant, des scénarios absurdes, par exemple, des directeurs de France Télévisions qui emploient des sociétés de production privées, qui acceptent des facturations, peut-être que la justice pourrait considérer qu'elles sont surfacturées, qui par la suite se font licencier avec l'argent du contribuable de France Télévisions et qui sont ensuite embauchés dans les mêmes sociétés de production. Bon, évidemment, du point de vue de la déontologie, ça passe pas. Pour le citoyen lambda que je suis et que nous sommes tous, c'est extrêmement choquant et évidemment ça crée une ambiance, une atmosphère, une perception, comme vous dites, effectivement, que tout est corrompu, que tout est vicié, qu'il y a un genre de caste, de super caste, qui a finalement tous les pouvoirs, qu'ils soient médiatiques, juridiques ou politiques. En effet, maintenant, il faut se méfier, malgré tout, des généralités. J'ai tendance à prendre un petit peu de recul sur ce genre de classement. Je pense, malgré tout, qu'il fait meilleur vivre du point de vue de l'équité en France qu'en Arabie Saoudite.
Alors moi, je vais faire, au contraire, je vais prendre aucun recul. J'ai cité déjà plusieurs choses, mais on peut parler de Rachida Dati, qui a été un ministre en exercice, qui est ministre en exercice, qui fait objet d'accusations de corruption. Il y avait l'ancien sénateur FN, maire de Fréjus, David Rachline.
Qui a gagné son procès.
Voilà. Mais je parle de la perception des affaires. Et là, je parle que d'hommes politiques. Estrosi, Ciotti, Balkany. Enfin, je pourrais faire une litanie de.
Sans oublier Hortefeux.
Voilà. Non, mais voilà, de personnalités politiques. Pour le privé, c'est toujours plus compliqué puisque ce sont des sociétés, donc qui à chaque fois est mise en cause, on ne sait pas trop. Xavier Aymon, pour vous, la corruption, c'est quelque chose qui est structurel en France ou pas du tout?
Je pense que ça l'est de plus en plus, mais en effet, ça prend des formes très très diverses. On n'est pas encore, même si on va peut-être y arriver, puisqu'on est en phase de tiers-mondisation accélérée, on n'est pas encore dans les systèmes qu'on peut voir dans d'autres pays, des pays du Sud ou des pays, en effet, de l'Est, où si vous faites arrêter par la police, bon, bah, vous allez être un peu racketté, puis si vous faites sauter votre amende en donnant un bac chiche, un billet, ou si vous avez besoin d'une démarche administrative, vous savez qu'il faut payer le fonctionnaire en arrivant à la mairie, etc. Ça, on n'en est quand même pas encore là, Dieu merci. Donc cette corruption, on va dire, de rue, cette corruption de la base, elle n'est pas encore présente dans notre pays. On a en effet l'impression que pour l'instant, c'est quand même limité à nos élites. Et pour le coup, il me semble que c'est un vrai système organisé. C'est Jean-Yves Le Gallou qui parle d'étatisme de connivence et de capitalisme de connivence. Et en fait, c'est...
Vous allez pouvoir nous parler du dossier de la revue Éléments sur l'État.
Voilà, alors ça, c'est une réaction de Jean-Yves Le Gallou sur le site internet de la revue, mais ça me paraît en effet assez lié à notre sujet, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément des choses qui sont parfaitement illégales, mais c'est une caste qui, en effet, se connaît, fait passer les intérêts de ses amis avant ceux de avant l'intérêt général et avant le bien commun, qui s'arrange pour que les marchés publics soient réservés systématiquement à un tel ou à un tel plutôt qu'aux autres, parce que c'est très facile, en fait, de rédiger des appels d'offres pour qu'ils ne correspondent qu'à un seul ou deux prétendants que l'on veut à tout prix faire travailler, qui peuvent, dans ce cas, en effet, pratiquer des prix plus ou moins important et en général assez important. Donc il y a un vrai réseau en effet de connivence et qui est basé sur l'entre-soi de ces élites et qui mélange en effet public et privé. C'est-à-dire qu'en fait le public, la distinction qu'on fait souvent entre public et privé, elle s'efface à un certain niveau puisqu'il y a énormément d'entreprises privées qui ne travaillent que grâce à la commande publique. Et là, c'est à ce moment-là où se nouent ces marchés qu'il peut y avoir, en effet, des phénomènes de corruption ou en tout cas d'avantage, on avantage tel ou tel. Et c'est de plus en plus répandu, à mon sens, et c'est pratiquement intégré dans les pratiques courantes des marchés publics. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression que c'est plus des cas particuliers de justement un individu qui veut s'enrichir et qui commence à faire n'importe quoi, mais un véritable système qu'on pourrait qualifier en exagérant à peine de paramafieux.
Oui, mais après, est-ce que c'est pas inhérent à toute structure humaine d'avoir des phénomènes où vous cherchez un peu à vous enrichir ? François Charbon, je vous vois dodeliner.
Fondamentalement, ce que vous dites, c'est que l'homme a une grande part de mauvaises choses en lui. Nous sommes certainement d'accord sur le principe. Néanmoins, il y a peut-être des cadres quand même.
C'est mon côté janséniste.
Il y a peut-être des cadres qui sont plus prolifères que d'autres pour la corruption. Un exemple comme ça en passant. En ce moment, donc, chacun aura remarqué que c'est la campagne municipale qui bat son plein, notamment à Paris. Et une candidature qui a été pas mal montée évidemment en flèche dernièrement, c'est celle de Sarah Knafo, qui, à grand renfort de plateau de télévision, nous assène qu'il faut absolument réduire le nombre de fonctionnaires de la ville de Paris, et pour ce faire notamment terminer le travail entrepris déjà par Jacques Chirac, lorsqu'il était lui-même maire de notre belle ville, en privatisant par exemple le service des éboueurs. Bon, plus on privatise ce genre de service, évidemment qui sont des services techniques compliqués, où il y a, si on parle un peu boutique, un ticket d'entrée, comme on dit, sur le marché assez élevé, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas demain créer une entreprise de collecte de déchets. Il faut des camions, il faut du personnel, il faut un savoir-faire, etc. Bon, donc en réalité, il y a peut-être 3 ou 4 entreprises sur le marché en France, on ne listera pas, mais tout le monde les connaît, qui sont capables de produire ce genre de service. Alors évidemment, on crée une situation pas de monopole, mais de quasi-monopole, où on a seulement 3 ou 4 acteurs qui vont se partager comme ça le gâteau. Tiens, toi, tu prends le 15e, je prends le 13e, etc. Bon, donc on voit bien que c'est un cadre fonctionnel, structurel, où on rend possible soit la situation de monopole, et donc assez rapidement quand même, finalement, l'antithèse même du libéralisme prôné par Sarah Knafo, qui nous parle de vertu de la concurrence notamment, soit des situations effectivement d'entre-soi, d'entre-gens, où on va comme ça sélectionner une entreprise plutôt qu'une autre. Alors, sans tomber dans une vision communiste,
je voudrais pas
courroucer les auditeurs de Radio Courtoisie, mais sans tomber dans une vision communiste des structures,
je reçois tout le monde à mon micro, donc vous pouvez être communiste,
collective et publique. Je crois que une des premières mesures anticorruption, c'est d'abord de regarder les structures publiques de dépenses, comment sont-elles organisées, qu'est-ce qu'on permet. Mais la privatisation, c'est évidemment la porte ouverte à des phénomènes de corruption, non pas que les fonctionnaires soient des anges blancs, intouchables, incorruptibles. Néanmoins, comme le disait Xavier Aymon à l'instant, effectivement, on n'est pas encore au stade où un fonctionnaire est si facilement corruptible que cela.
Je pense que Xavier Aymon sera assez d'accord avec ce que vous avez dit. Vous qui défendez l'État en permanence, Xavier.
Oui, moi je suis en effet un assez grand défenseur de l'État, surtout quand je compare avec le privé. Je n'adhère pas du tout à cette croyance très répandue de la supériorité systématique de la gestion privée sur la gestion publique. Qu'il y ait des dysfonctionnements importants dans la fonction publique, qu'il y ait peut-être en effet une surpopulation de fonctionnaires dans certains domaines, ça me paraît assez évident. Mais c'est évidemment pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Les structures étatiques et publiques échappent à la logique purement mercantile et purement économique, et donc peuvent en effet plus facilement se défendre contre ces phénomènes de corruption. À mon avis, elles sont plus facilement contrôlables par l'État puisqu'elles en font partie intégrante. Et il me semble que en effet, sans vouloir évidemment tout nationaliser, c'est pas mon propos et on n'en est pas là. Mais il me semble en effet que c'est plutôt le mélange des genres qui est propice à la corruption. C'est quand, en effet, on demande à quelqu'un qui gagne 2 500 euros par mois de négocier des marchés de plusieurs millions avec des gens qui gagnent 5-10 fois ce qu'ils gagnent. Là, il peut y avoir des petites tentations, des petits passages d'enveloppe, des petits retours, des petits cadeaux qui peuvent en effet séduire certaines personnes. Alors, on sait bien que la nature humaine étant ce qu'elle est. Donc, c'est ce mélange des genres, moi, qui me paraît très criminogène, si je puis dire, dans ce domaine.
Johannis, vous voulez prendre des notes?
Mais oui, mais il y a deux phénomènes. Il y a la suradministration déjà, mais je pense que c'est pas le cœur du débat, mais c'est que bien souvent, en fait, on enlève des gens pour passer le balai dans les rues, mais on va mettre 3 personnes pour contrôler qu'ils l'ont fait dans un bureau. Mais j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là tout de suite. Mais je pense que surtout, ce dont on doit se prémunir par rapport à la corruption, et d'ailleurs par rapport à tout de façon générale, c'est l'inflation législative, c'est-à-dire que on va encore créer des comités, des commissions parlementaires, donc soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, et du on coup, va essayer de faire de nouvelles lois.
Vous êtes contre la commission d'enquête sur l'audiovisuel public?
Oui, je suis plutôt contre, mais de façon générale, même si parce qu'en fait cette commission est en train de mettre plein de choses sur la table. Et une fois qu'elles sont sur la table, elles resteront sur la table, et puis chacun prendra ses affaires. Il y aura une ou deux victimes collatérales, et encore peut-être même pas pour la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, parce qu'on a bien vu, là, on a quand même une tribune qui a été signée dans la presse par quelques centaines...
350 personnalités, oui.
Ouais, 350 personnalités et artistes qui disent que un député, donc là en l'occurrence c'était le rapporteur de la commission, le député à l'oncle, n'a pas mené cette enquête. Donc on voit bien que malgré tout, le mandat des Français pèse bien peu face à... D'ailleurs je vois pas comment un média peut accepter d'héberger une telle tribune, mais bon, ça m'interroge. Mais je pense qu'il faut se prémunir de l'inflation législative parce que, en fait... On a un phénomène, donc la corruption inquiète de plus en plus de Français, des ONG tirent la sonnette d'alarme, donc là on est plutôt sur des ONG qui sont...
Mondialistes.
Non mais qui sont d'inspiration, c'est des Allemands qui avaient créé cette association à la base.
Ça doit être bien tenu alors.
Donc on n'est pas forcément sur quelque chose qui était au début... de type French American Foundation, tout ça, mais c'est jamais très loin, on va pas se mentir, donc François Charmois avait raison là-dessus, mais malgré tout, on a un phénomène qui émerge, et tout de suite, le législateur va dire, on va faire des lois, mais les lois, elles existent, l'arsenal législatif en France, c'est même plus un millefeuille, je veux dire, il y a des lois pour tout, mais les lois ne sont pas appliquées comme d'habitude, et plutôt que de les appliquer en fait, on crée de nouvelles lois et comme ça, on donne l'impression aux gens qu'on se soucie des problèmes. Des procès, il y en a eu, je crois, c'est 2000, voilà, j'ai noté le chiffre. On était à 2143 personnes qui ont été condamnées pour atteinte à la probité en 2023 en France. On en avait 1582 en 2014, donc il y a 10 ans. Donc ça a quand même augmenté de plus de 35% en 10 ans, les atteintes à la probité. Alors après, on peut se dire, 2000 personnes sur un pays comme la France, c'est rien. Mais en fait, on sait bien que tout cela, en fait, c'est un pourcentage infime de ce qui est réellement fait. Et c'est pas les quelques... Là, on parle de fonctionnaires tout à l'heure. On a 4500 fonctionnaires qui sont censés vérifier en France tout ce qui est probité, corruption, pot de vin, choses comme ça.
Oui, mais j'ai vu qu'en avril, le président de la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique a appelé le gouvernement à augmenter son budget, affirmant que sur les 13 000 déclarations faites par des fonctionnaires en 2024, il n'avait la capacité d'en vérifier que 5 000. Donc même pas la moitié.
Oui, et puis, et je le disais tout à l'heure, cette Haute Autorité, n'a aucun pouvoir coercitif. C'est-à-dire que c'est une autorité qui, après, remet les choses à la justice. À un moment, peut-être qu'il faut lui donner des pouvoirs coercitifs. Peut-être que cette autorité doit pouvoir statuer, une fois qu'ils ont fait l'enquête et trouvé les choses. On passe pas devant un juge si cette autorité qui a pouvoir de justice. Peut-être, je ne sais pas, c'est une question. Mais toujours est-il que là, à chaque fois, la haute autorité... statut sur la moitié des dossiers qu'on lui envoie, bah un tiers, grosso modo, et sachant que bien souvent, ce sont des règlements de compte politiques. C'est-à-dire que soit c'est quelqu'un qui veut prendre la place au sein de son parti, de son chef, soit c'est quelqu'un qui est dans l'opposition, qui veut régler les comptes avec un maire. On est souvent sur des calculs totalement politiques.
Non mais je suis d'accord avec vous sur le fait que la haute autorité en la matière a peu de pouvoir coercitif, mais il existe quand même d'autres organes. Il y a le parquet national financier qui a un pouvoir coercitif et là aussi le rapport dit que sur chaque binôme de magistrats traite 80 affaires alors qu'il prévoyait qu'ils en traitent 8. Donc bon, ils ont 10 fois trop de travail. Mais on peut pas dire que il y a aucun pouvoir coercitif qui est mis en place contre la corruption, Xavier Aymon.
Mais je pense qu'on en revient à ce que vous avez évoqué au début de ce débat, c'est la question de la volonté politique. En fait, c'est ce qui manque, c'est encore une fois, comme dans quasiment tous les domaines, c'est la volonté politique. Des moyens, si on voulait vraiment lutter contre la corruption, et ben on dégagerait des moyens suffisants pour le faire. On ne veut pas le faire. Clairement, les sanctions sont en général assez ridicules. Moi, il me semble qu'en effet, on ne veut pas résoudre ce problème parce que c'est la nature même de notre système aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui est devenu un État qui pense à se servir avant de servir le bien public et l'intérêt général, et que donc c'est devenu presque sa propre finalité, c'est de se goberger. C'est-à-dire que entre copains. Et que donc on va pas commencer la chasse parce que sinon on sait pas jusqu'où ça peut remonter, jusqu'où ça peut aller, et en fait on donne quelquefois en effet 2-3 personnes comme ça, on va les condamner pour donner le change et donner l'impression au public qu'on fait quelque chose, mais en fait il me semble aujourd'hui que notre État n'est fait que pour servir son personnel et notamment le personnel politique pour s'enrichir et se gaver, et donc on n'a plus de volonté générale de nettoyer les écuries d'Augias, parce que les écuries d'Augias c'est ce qu'on veut rentrer dans un gouvernement, on veut pour rentrer dans les écuries d'Augias, pas pour les nettoyer.
J'ai envie de vous dire, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans des précédentes émissions, on a beaucoup parlé du phénomène de la drogue, et à vous écouter Xavier Aymon, j'ai l'impression qu'on est quasiment un narco-état avec une mafia au pouvoir. On n'en est pas là quand même.
Non, mais on est quand même dans un état qui multiplie par exemple les comités Théodule, les agences de ceci, les agences de cela, pour distribuer des postes et de l'argent, des choses qui n'ont aucun sens, aucun intérêt, qui rendent des rapports qui sont immédiatement enterrés à la cave, à peine sont-ils sortis, qui n'ont jamais de conséquences ni de suites. On a des ambassadeurs de ceci, des ambassadeurs à UNESCO, des ambassadeurs. En fait, on multiplie.
Ambassadeurs des pôles.
On multiplie les prébendes à un niveau incroyable. Alors ça, c'est pas illégal, mais en fait, on vole l'argent des Français pour nourrir une élite parasitaire de plus en plus importante et qui en plus est de plus en plus médiocre. C'est ça le pire des choses, c'est qu'en plus elle n'est même plus compétente, elle n'est même plus digne de son nom d'élite, mais elle consomme de plus en plus d'argent. C'est invraisemblable. Et en fait, on a l'impression que ce n'est plus que ça la finalité de l'État, c'est-à-dire réussir à nourrir un maximum de personnes, que ce soit l'exemple archétypal en ce moment c'est Jack Lang avec son
je voulais vous entendre parler de la corruption
du Jack Lang du monde arabe,
qui a été révélé par les dossiers Epstein,
un homme de 86 ans, ancien ministre, etc., à qui on donne encore plus de 10 000 euros de salaire par mois, plus tous les avantages évidemment inhérents à sa fonctions, les bureaux, les chauffeurs, etc., etc. Ça aussi, c'est en quoi c'est normal. Je rappelle quand même que l'Institut du Monde Arabe, qui a été fondé en 1980 par un accord international, c'est censé être une fondation de droit privé.
Oui, c'est une fondation de droit privé.
Certes, reconnue d'utilité publique, mais de droit privé, et à l'origine, le financement devait être partagé. 60% pour la France, évidemment, prenez la plus grosse part, et 40% par les pays arabes cofondateurs. Et alors, devinez quoi ? Hein, surprise, les pays arabes cofondateurs n'ont jamais payé ou quasiment pas payé leur cotisation, si je puis dire, ou leur participation à ce projet. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quasiment la France qui paye à 100% ce gadget, ce musée. Alors il y a peut-être des choses très intéressantes et des très belles expositions, j'en doute pas, mais enfin, ça fait quand même relativement cher, d'autant que c'était pas censé être le contribuable français qui devait tout payer à la base. C'est quand même un budget de, je crois, entre 25 et 28 millions d'euros par an.
Voilà. C'est drôle parce qu'ils n'ont pas payé, mais pour moi, dans le conseil d'administration, ils ont quand même un pouvoir non négligeable sur la nomination du président.
Sur la programmation.
Je pense qu'ils gardent tous les prérogatives qui étaient prévues, sauf qu'ils ne payent pas. Voilà, et comme on a encore une fois volonté politique, on s'est une fois de plus écrasé. Eh ben, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, en effet, ils gardent leur pouvoir de décisionnaire sans participer, à part ponctuellement, au financement de cet institut. Et ça, ce genre d'exemple, vous pouvez le multiplier par des dizaines et des centaines de fois. Vous imaginez l'argent que ça représente et le nombre de gens qui sont payés. Ça ne devait quand même pas être violent, le travail de Jacques Lang, qui sont payés grassement pour faire quasiment rien. Et moi, je vais pas faire c'est un peu de la démagogie populiste de base, mais c'est quand même absolument scandaleux quand dans le même temps, on nous vend le fait qu'il y a plus d'argent dans les caisses de l'État, qu'il va falloir travailler jusqu'à 80 ans, que...
Bah Jacques Lang le fait, hein.
Il faut... oui, alors lui, c'est pas un problème, mais à ce tarif-là, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seraient prêts à signer, pour le coup. Là, il n'y a pas de problème, qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut pas se chauffer au-dessus de 19 degrés, etc., etc. Ça devient insupportable, cette césure entre des ultra-privilégiés qui ne cessent de se goberger de l'argent public et des Français qui tirent de plus en plus la langue.
Vous me direz que Jacques Lang a au moins le point commun avec les pays arabes de l'Institut du Monde Arabe, puisque lui aussi il est connu pour ne pas payer ses factures. Et je crois qu'il était client régulier du traiteur libanais de l'Institut du Monde Arabe, et puis il considérait que c'était normal qu'on lui paye son repas. Voilà, le traiteur a fait faillite.
Non, mais il faisait ça pour, a priori, dans tous les restaurants où il allait. Il considérait que sa présence était tellement lumineuse qu'elle était une sorte de publicité pour l'établissement qu'il fréquentait, et il partait systématiquement avec son épouse sans payer. Et il y a des témoignages de patrons de restaurants, et en plus c'était en général pas des gargotes de troisième ordre, qui disent on était extrêmement gênés parce qu'il fallait essayer de le rattraper, mais sans le vexer, sans faire d'esclandre, pour lui dire excusez-moi, vous avez dû oublier quelque chose. Et lui considérait que c'était absolument scandaleux de lui réclamer le moindre sou pour la pitance qu'il avait eu l'honneur de sa présence. Enfin, c'est quand même déjà des mentalités assez incroyables. On a appris aussi qu'il n'était plus invité au Festival de Cannes parce qu'il laissait des ardoises gigantesques dans les palaces de Cannes. Enfin, c'est un personnage.
Et puis il y a ses costumes, ça lui fait un point commun avec François Fillon.
Voilà, les 500 000 euros de costumes smalto, c'est délirant. Et que ce personnage, jusqu'à présent, ait pu rester en place, payé par nos impôts, oui, c'est un peu démentiel. Mais encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance, puisque tout le monde le fait actuellement, sans doute largement à raison, mais ce n'est qu'un exemple parmi des centaines et des milliers de profiteurs de cette république qui devient en effet une république bananière.
Très bien, nous allons passer à un petit bobino.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
De retour dans le studio de Radio Courtoisie, nous parlions de la corruption qui gangrène la France. Nous avons parlé beaucoup des hommes politiques et de l'État. Xavier Aymon disait que l'immixtion, la grande proximité, les liens très forts entre le public et le privé pouvaient être propices à la corruption. Mais en fait, moi j'ai quand même l'impression que l'État il s'effondre de part en part, et que dans cet effondrement, le président de la République, notre Reich à nous, Emmanuel Macron, essaye de sauver les meubles en verrouillant les institutions. François Charmeau, vous qui êtes un admirateur d'Emmanuel Macron, puisque vous êtes le seul communiste de l'émission et que nous sommes sur Radio Courtoisie avec toutes les droites et tous les talents, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ?
Elle est assez juste, mais ça fait une excellente transition avec la question de la corruption, puisque ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, cette question de la corruption, elle est importante à traiter en tant que telle, mais elle est surtout un témoin, un indicateur, un indice du climat et de la réalité politique d'un pays. Le meilleur moyen de lutter contre la corruption, on regarde ce qu'on a pu d'ailleurs dire avant le passage du Bobineau, c'est qu'effectivement, il faut d'un côté un État fort, structuré, capable, mais un État aussi idéaliste, avec cette volonté de servir tout simplement l'intérêt général et également des structures, une justice qui porte son nom, qui est réellement indépendante, parce que on parlait du parquet national financier, mais il est sous la tutelle du ministère de la Justice. Enfin bon, bref, passons sur ces détails.
Vous ne croyez pas à la séparation des pouvoirs ?
Si, j'y crois quand elle est réelle, mais quand, enfin, je veux dire, c'est notoriété publique que les parquets reçoivent des directives des ministères. Partant de là, c'est compliqué de parler de réelle indépendance. Enfin, pour répondre à votre question, je crois que la volonté d'Emmanuel Macron dans le verrouillage institutionnel qu'il a entrepris en réalité dès le départ, dès son premier mandat, dès 2017, simplement, il s'est attaqué à l'échelle par le bas, en commençant par le corps préfectoral. Maintenant, nous en sommes rendus au président, alors président 2 de la Cour des comptes, demain président du Conseil d'État, après-demain président du Conseil constitutionnel. Tous ces gens sont censés être les garants finalement du bon fonctionnement du système de la politique qui est le nôtre, celui de la Ve République. Bon, il y a une volonté politique chez Emmanuel Macron de s'assurer une postérité, peut-être aussi, si on fait de la politique fiction, de préparer un éventuel retour pour 2027, mais c'est un autre sujet. Il y a malgré tout une réalité, on nous a vendu un nouveau monde en 2017, un nouveau souffle politique, et ce nouveau souffle n'a pas eu lieu du point de vue social. Je ne crois pas qu'on respire mieux qu'en 2017. En revanche, l'ouragan est réellement passé dans les branches de l'État, puisque une bonne partie de ce qui constituait malgré tout un genre de colonne vertébrale au pays, à savoir...
Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ces colonnes vertébrales, sur 2017, la préfectorale
Eh bien, tout simplement, c'est pourtant l'objet de nombreuses critiques dans nos rangs. Il y a effectivement en France, depuis un certain temps, depuis quasiment 58, et la création de la Ve République, il y a eu en France une espèce de corps, j'allais dire préfectoral, mais plus largement un corps qu'on pourrait qualifier de technocratique, alors souvent effectivement issu de grandes écoles, l'ENA en fait partie, mais pas que, en tout cas habitués, des gens qui ont fait des carrières au service de l'État, à défaut de les faire au service des Français dans beaucoup de cas malheureusement, mais néanmoins des gens qui avaient une certaine idée de leur fonction et de comment un État doit fonctionner, et surtout des gens qui obéissaient à des traditions, alors qui n'étaient manifestement et sans doute pas les bonnes, peut-être pas les meilleures politiquement, mais qui obéissaient à des traditions bien françaises de comment on gère un événement météorologique, comment on gère une manifestation, comment on gère la fermeture d'un hôpital, comment on gère des questions finalement locales qui font réellement la vie des gens. On dit souvent que l'État en France est centralisé, on oublie d'ajouter que cette centralisation sous-entend vraiment des relais étatiques un petit peu partout sur le territoire, d'où l'importance des préfectures.
Oui, c'est assez qu'on descend vers le bas, mais même quand on parle plus de manière horizontale, ou ça dépend comment on prend le schéma, mais le service de l'État, ça passe aussi par exemple par le ministère des Affaires étrangères, et on voit que si la diplomatie française aujourd'hui est indigente en termes politiques, c'est qu'elle ne répond plus à aucune colonne vertébrale, comme vous le disiez justement.
Ben c'est qu'on est passé du Barvédrine à Jean-Noël Barrot, hein, tout simplement. Enfin, voilà. Bon, passons. Mais pour revenir malgré tout au cœur du propos, les préfets sont nommés par l'État. Donc il y a évidemment une ingérence politique dans la nomination des préfets, et c'est normal. Il y a toujours eu comme ça un jeu de va-et-vient avec les Chiraciens, les Sarkozystes, ensuite les Hollandiens, les Hollandis, je ne sais pas comment les qualifier.
Les Fabusiens.
Néanmoins, il y avait un corps préfectoral de gens qui peu ou prou faisaient quasiment à chaque fois la même chose et permettaient à ce pays d'avoir l'impression, à minima, de continuer. Depuis 2017. Évidemment, le Covid a été accélérateur. Différents épisodes de confinement n'ont fait qu'accélérer cette tiers-mondisation qu'on évoque finalement assez régulièrement à ce micro ou ailleurs. Eh bien, tout ça, on le doit aussi à un écroulement fonctionnel, à une perte de capacité, à une perte de compétences, tout simplement, de l'État dans la gestion du quotidien d'un pays, dans la gestion finalement d'un pays qui en plus en termes de taille est relativement petit, réduit, mais qui est pétri eh bien, de particularités. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des paniques générales dans certaines préfectures. Là, on sort d'un épisode de tempête. Alors voilà, la moitié du pays est bloqué, personne n'anticipe rien. Et c'est les petits réglages qu'on voit se dérailler de plus en plus. Je vous donne un exemple. Il se trouve que je suis amateur d'un sport qui s'appelle le rugby. Et régulièrement...
Petite pensée pour l'équipe de France qui joue demain.
Régulièrement maintenant, c'est tout à fait fréquent que des matchs de top 14, donc la première division, qui est une division professionnelle, qui draine donc des spectateurs, parfois entre 10 et 30 000 spectateurs par match, soient annulés une heure avant, parce qu'on découvre qu'il a plu sur le terrain. C'est typiquement le genre de décision qui incombe à des préfectures. Et donc, c'est une préfecture qui incombe le devoir, finalement, de prévoir un événement météo, de prendre les dispositions, de prévenir les gens, de gérer, finalement, la situation publique. Tout cela est toujours fait, mais de plus en plus mal, de moins en moins bien. Pourquoi ? Parce qu'on a renouvelé, tout simplement, ce corps en plaçant des gens qui sont dévoués, certes, à une certaine idée du macronisme, des gens qui sont peut-être profondément centristes, mais surtout et avant tout, je crois, profondément incompétents.
On dit souvent que c'est tous les anciens socialistes qui récupèrent les postes. Là, on parlait de la question des préfets de 2017, on parle de Huba. Là, si on parle de ça aujourd'hui, c'est que on va plutôt parler du haut, de Amélie de Montchalin. Jean-Yannis, pour vous, on est vraiment dans la République des copains ?
Je pense que c'est évident, et on peut parler d'Amélie de Montchalin,
oui,
on peut parler également du, vous le disiez très justement, du corps diplomatique qui a été décapité, et on se retrouve avec, on n'a plus aucun relais en fait, la France dans le monde, et en fait tout ça, ça va de la même logique en fait. Derrière, la voix de la France, déjà qu'elle ne pèse plus à l'intérieur, comment vous voulez que la voix de l'État français qui ne pèse plus au sein du pays pèse à l'extérieur, c'est impossible. On est sur des calculs politiques, on est bien loin du bien commun et de penser l'État pour les Français. On pense à se placer, ce que disait tout à l'heure très justement également Xavier Mons, c'est on se place, on distribue les places, les bonnes en priorité, et puis quand elles n'existent plus, on crée des nouveaux gâteaux. Et en attendant, et ce qui est grave, c'est que tout ça, ça a aussi des impacts sur les élections futures. C'est que, en attendant, toutes ces personnes-là savent à qui elles doivent leur place, et donc elles ont une fidélité. Et donc demain, ce seront elles qui seront des contre-pouvoirs, parce que toutes ces institutions sont des contre-pouvoirs au sein de nos institutions, et demain qui pourront bloquer l'action politique d'un gouvernement. Patriote de droite ou même un gouvernement de gauche, un gouvernement autre. Et en fait, pour servir le macronisme, et après on a d'autres relais qui est par exemple l'Union européenne. On voit que la Commission européenne outrepasse régulièrement son cadre de compétences strict. Le cadre de compétences de la Commission européenne à la base, c'est de parler de certains sujets. Aujourd'hui, ça parle de santé, ça parle du commerce, ça parle de la défense. La défense ne fait pas du tout partie du cadre de compétences de l'Union européenne, de la Commission européenne, pardon. Le commerce, oui. La défense, non. Pourtant, actuellement, c'est Ursula von der Leyen qui donne des instructions aux États sur comment on va mener une défense stratégique européenne. Et en fait, face à un État qui est défaillant, des contre-pouvoirs qui sont aux ordres, c'est difficile pour celui qui va arriver derrière, quel qu'il soit. Parce que même si c'est une personne issue du camp macroniste, il sera pas forcément un macroniste pur sucre. Et parfois, on est même plus dur avec les propres enfants. On l'a vu dans les guerres Balladur-Chirac, Mitterrand, qui avait fait en sorte de tuer toute concurrence à gauche. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il y ait aussi des règlements comptes au sein du centre. Mais où sont les Français là-dedans ? Que font-ils ? Tout le monde, pardonnez-moi, s'en fout.
Xavier, non ?
Oui, pour ma part, il me semble que cette destruction progressive de l'État, des services publics, elle est pas du tout accidentelle. Elle est le fruit, en effet, de ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire le fait que les gens sont de moins en moins compétents, qu'on les place plus par connivence politique ou idéologique que par efficience pratique. Mais pour moi, c'est une stratégie. C'est une véritable stratégie. C'est la stratégie libérale qui consiste en fait à détruire de l'intérieur un service public pour ensuite le privatiser. Voilà, c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est une stratégie qui est remarquablement efficace, puisqu'en effet, les gens, le public, la population ne peut qu'applaudir quand on lui dit, bah voyez, regardez, ça marche vraiment plus. On va, il faut faire quelque chose. Et la réponse est toujours, bah on va privatiser. On va privatiser. Donc on casse les jouets de l'État pour pouvoir les vendre sur les marchés. Si on regarde l'action d'Emmanuel Macron à la tête de l'État, ça va énormément dans ce sens. On en a parlé, destruction du corps diplomatique qui était quand même pour le coup une des rares réussites de la Ve République, hein, qui était quand même respectée dans le monde entier et qui avait quand même des visions politiques et géostratégiques assez solides et assez intéressantes. Donc ça, on le casse et on le remplace par tel ami écrivain qu'on place ambassadeur je sais pas où, tel fidèle qui n'ont aucune formation dans ce domaine, etc. Donc ça, c'est le premier point. Après, quelque chose qui est passé relativement inaperçu, mais qui est très important pour le fonctionnement d'une administration, c'est la disparition, la suppression par Emmanuel Macron des services d'inspection interne à la fonction publique. Dans la fonction publique, il y avait des inspections, l'inspection générale, comme il y a l'inspection générale des services dans la police. Pour le coup, elle existe encore, Dieu merci. Mais dans tous les domaines, il y avait l'équivalent.
On inspecte et, encore les établissements scolaires.
Et hein. En fait, oui.
Surtout quand ils sont catholiques.
Mais c'est supprimé. Le titre d'inspecteur général a été supprimé et c'est de plus en plus remplacé par des services externes et par des cabinets du genre McKinsey qui viennent faire des opérations d'audit, comme on dit, à la place d'un contrôle systématique et administratif interne, on fait appel à des sociétés extérieures et qui vont nous dire tout le mal, évidemment, qu'elles pensent de ces administrations, mais dans le but final, encore une fois, de décrédibiliser le service public pour inciter à la privatisation maximum. Et c'est ça la grande stratégie des libéraux. C'est très facile aujourd'hui d'appeler à se débarrasser d'instruments que eux-mêmes ont sabotés. Voilà, les libéraux ont saboté l'État français et maintenant, ils font le constat que ça marche pas et ils essaient d'apporter leur solution miracle, qui est celle de la privatisation forcée. Ce sera demain les hôpitaux et ce sera après-demain les écoles et les universités.
Vous pensez pas que c'est plutôt un outil politique pour préparer l'après, comme disait Jean Arnis, Macron peut nommer un certain nombre de personnes à des postes à responsabilité et il se dit que ces gens-là lui seront redevables plus tard, François Charmeau.
Certainement, mais finalement l'un n'exclut pas l'autre. Et je crois qu'il faut s'inscrire complètement dans les propos de Xavier Aymon, le surnom qu'on pourrait donner à Emmanuel Macron quand il quittera l'Élysée, c'était le grand destructeur, le grand vendeur. D'ailleurs, il avait commencé avant même d'être président de la République. On sait à quel point ses intérêts étaient liés, et je vais essayer de peser mes mots, à ceux quand même de grandes firmes américaines, parmi lesquelles Uber. Emmanuel Macron, c'est aussi un des architectes, un des grands participants de la vente, notamment d'Alstom. Enfin bon, je vais pas refaire la liste en entier, mais pour les auditeurs que ça intéresse, malgré tout, je les renvoie, je les enverrai à une fuite de documents qui avait été permise par Wikileaks suite à la campagne présidentielle de 2017, où on avait accès à toute la boîte email de la campagne, du staff de campagne d'Emmanuel Macron, donc de En Marche, La République En Marche à l'époque, et on pouvait lire des mails incroyables reçus en direct de la direction américaine de l'entreprise Uber qui commandait certaines mesures. Donc tout ça laisse songeur effectivement sur la nature réelle de la volonté politique d'Emmanuel Macron, qui en réalité est inexistante, qui est une volonté économique. Et encore aujourd'hui, on peut lire ses actions, notamment diplomatiques, puisqu'il s'est réfugié dans le grand cirque mondial pour échapper à la mare nationale qu'il a contribué à créer depuis deux ans. on peut tout à fait analyser son action internationale avec un regard économique, et elle s'explique d'ailleurs de bien des façons, mais c'est pas le sujet. Pour revenir malgré tout sur cette histoire de fonctionnement de l'État, on est en train de gentiment de s'américaniser complètement, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes schémas qu'aux États-Unis. On nous explique que voilà, l'administration Biden va passer la main à l'administration Trump et que donc des milliers de gens perdent leur emploi, etc. Et c'est le même cinéma à chaque élection. C'est-à-dire pour ça qu'aux États-Unis, entre en général le 4 novembre où on a le nom du futur président des États-Unis et l'investiture réelle qui a lieu en janvier, il y a tout ce temps, c'est un temps de transition entre deux administrations. Alors, on pourrait dire, on pourrait être tenté de dire, mais après tout, pourquoi pas ? Est-ce qu'il n'est pas sain que chaque chef d'État qui arrive au pouvoir puisse disposer, finalement, d'une administration qui lui est complètement dévouée ? C'est un peu oublier rapidement, quand même, le système politique qui est le nôtre. Les États-Unis sont une fédération, et donc l'État qui est gouverné par le chef de l'État est l'État fédéral, celui qui permet à la fédération de s'entendre. Mais chaque État membre de la fédération a lui-même un gouverneur élu, ils ont un fonctionnement de justice qui est élu, enfin bref, ils ont un fonctionnement démocratique, peut-être d'ailleurs en un sens un peu plus que le nôtre, puisque les électeurs en tout cas sont appelés à voter de manière plus récurrente et sur des sujets beaucoup plus brûlants, mais qui malgré tout n'est pas transposable en France, pays encore une fois centralisé, où chaque parcelle du domaine national a vocation à être mise sous la coupe de l'État, où la propriété privée n'en est quasiment plus une, où l'État met son nez absolument partout. Dans ce genre de configuration, on a évidemment besoin d'un État fort, indépendant et encore une fois, je leur ai dit, compétent.
Xavier Mont disait qu'il y avait une volonté de saboter l'État, une volonté de remplacer le public par la gestion vertueuse ou prétendue vertueuse du privé. Est-ce que vous ne pensez pas que ce verrouillage des institutions par Macron, mais en fait ça a été fait par ses prédécesseurs aussi en plaçant certaines personnes, il est le fruit effectivement de copinage, mais il est peut-être aussi le fruit en fait d'un système qui est complètement crisique et qui en s'emballant avec des gouvernements de plus en plus nombreux sous chaque présidence, on a habitué certaines personnes à vivre avec des salaires de ministres. Ils sont de plus en plus souvent remplacés. Donc, pour les recaser, on va créer des postes absurdes. Est-ce que c'est vraiment...
Ça, c'est pas du copinage, ça.
Non, mais en fait, entre le côté volonté de détruire complètement l'État et le remplacer par un système de gestion privée, est-ce que c'est vraiment volontaire comme vous semblez plutôt le dire, ou est-ce que c'est plutôt en fait la machine qui s'emballe et à force de devoir recaser des gens, on est obligé de créer des trucs absurdes.
Ça peut être un peu les deux. Hein. Ça peut être un peu les deux. Et en plus,
moi, le poste de d'ambassadeur machin qu'on crée sur mesure pour quelqu'un, pour moi, en fait, il est plus créé parce que il y a besoin de recaser ce copain plutôt qu'une volonté réelle de casser l'État.
Ouais, enfin, on sait quand même à terme qu'en créant, en multipliant ce genre de choses, on finit de ruiner un État qui est déjà, en tout cas soi-disant, exsangue. Donc il y a quand même derrière, ils sont pas totalement imbéciles. Ils savent bien qu'ils sont en train de savonner la planche. Et d'autant qu'en fait, cette volonté de privatisation générale, elle n'est pas du tout incompatible avec la poursuite du copinage. On leur trouvera des postes dans le privé, oui, comme le on leur trouvera des postes dans le public. Hein. Du pantouflage et du replaçage dans le privé, il y en a quand même énormément aussi. C'est pas réservé au public. Hein. Le nombre de conseils d'administration de grandes sociétés où on retrouve tous les anciens, je sais pas, notre fameux ancien taulard Nicolas Sarkozy, il fait partie de je ne sais pas combien de conseils d'administration où il a des jetons de présence, etc. Donc en fait, le système du copinage est tout à fait compatible avec cette volonté de privatiser au maximum pour en effet offrir au marché, entre guillemets, de nouvelles portions de l'État et des nouveaux marchés pour le coup. Et notamment, je le répète, je pense que vraiment les prochaines étapes seront les hôpitaux hôpitaux et les universités. Et on sait que les universités, ça peut rapporter beaucoup d'argent, justement, avec le modèle, en essayant d'aller vers un modèle à l'américaine, où il faudra payer plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour pouvoir suivre des études, alors qu'aujourd'hui, c'est quasiment gratuit. Mais on va vers ça, et ça n'empêchera pas, en effet, de continuer à recaser, justement, les copains à des postes grassement payés. C'est pas du tout incompatible.
Alors, au risque d'enfoncer une porte ouverte, c'est aussi tout simplement la conséquence du fait que la politique n'est plus un but, n'est plus la recherche du bien commun, n'est plus la mise au service d'un individu pour la collectivité, mais est devenue un instrument pour faire avancer une idéologie, si on est plutôt membre de la France insoumise, ou pour faire avancer effectivement le marché, le capital, si on est un ancien banquier d'affaires. Donc effectivement, je fais preuve sans doute d'une grande naïveté, et j'enfonce probablement une porte ouverte, mais la réponse aux questions qu'on a pu soulever ce soir, que ce soit la question de la corruption ou celle du fonctionnement de l'État, qui sont deux sujets finalement assez liés, elles se situent avant tout, encore une fois, dans le politique et dans une dimension quasi, spirituelle, qui est celle du souci qu'on peut avoir de son prochain, et surtout quand son prochain fait partie du même pays. Et de ce point de vue-là, bon, évidemment, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer très longtemps sur le sujet, mais les déclarations ayant fuité des hommes politiques parlant de leurs congénères ces derniers temps, que ce soit François Hollande en parlant descendant, que ce soit évidemment Benjamin Griveaux qu'on a un peu vite oublié, qui parlait des mecs qui fument des clopes et roulent au diesel. Bon, on pourrait multiplier ce genre de citations qui démontrent bien que plus personne aujourd'hui, et je crois sincèrement que je pèse mes mots en le disant, plus personne aujourd'hui dans les 100 ou 150 ou 200 personnalités politiques qui font ce pays n'a honnêtement et réellement le souci du bien commun. Alors évidemment qu'en cherchant bien dans l'hémicycle, et je suis sûr en plus que c'est le cas dans quasiment tous les groupes, on peut trouver tel ou tel parlementaire, tel ou tel député, tel ou tel sénateur qui vraiment... réellement ce souci du bien-être et de l'avenir des citoyens de sa circonscription. Mais malgré tout, on le voit bien, et d'ailleurs on n'est pas les seuls à le voir, tout le monde le voit, le taux d'abstention en est le témoin, le désintérêt des Français pour la politique en est un autre témoin, et vous parliez de sentiment, de perception pardon, de la corruption, là encore c'est un témoin de plus du fait que tout le monde a bien compris que la caste politique qui est au pouvoir, tout parti confondu, ne se soucie plus du tout du bien commun. Et pour terminer, j'irai quand même dans le sens de Xavier Aymant, l'analyse qu'on porte sur le service public, elle est toujours et systématiquement économique. Je sais que on parle de la revue Élément, je sais que un de ses contributeurs, Guillaume Travers, a très largement évoqué cette question dans ses ouvrages, dans d'excellents papiers d'ailleurs signés notamment dans Élément, sur le fait qu'on jugeait un service public simplement avec les mêmes critères qu'une entreprise privée. Alors de ce point de vue-là, évidemment, le service public n'a aucune chance. Parce que précisément, il n'a pas du tout vocation à dégager des bénéfices. Il a vocation à dépenser de l'argent pour rendre un service. Donc, on compare, si vous voulez, c'est pot de terre contre pot de fer. On compare deux choses qui sont fondamentalement créées dans deux buts complètement différents. C'est un pur sophisme.
Vous vouliez réagir, je crois.
Oui, parce que moi, il y a quelque chose qui m'inquiète encore plus, peut-être, que le constat qui vient d'être fait, c'est... qui le prolonge un peu, c'est justement la passivité et l'acceptation de la population face à ces phénomènes. Que l'on parle de la corruption, que l'on parle de du délitement, du service public, etc. On a l'impression que les Français, dans leur grande majorité, ne réagissent plus, qu'ils ne sont même plus choqués par les affaires de corruption. On a l'impression qu'elles passent comme ça, et que finalement on a intégré cette idée que nos élites étaient corrompues et que c'était un peu comme ça. Quand on vient de passer le 6 février, si on repense aux réactions populaires qu'il y avait à des scandales tout à fait minimes par rapport aux scandales que l'on peut connaître aujourd'hui, maintenant vous avez des affaires de corruption qui explosent quasiment toutes les semaines, ça met pas une seule personne dans la rue. Donc on a quand même, j'ai l'impression que ce sentiment à la fois de banalité et d'impuissance a quand même vraiment intégré le corps social, à tel point qu'on se demande parfois même si la seule réaction qu'ont les gens vis-à-vis de corrupteurs ou de corrompus, c'est de se dire « Ah putain, ils sont bien malins, c'est dommage que je sois pas à leur place. »
À la place, c'est pareil, ouais.
On a l'impression, en effet, que le sentiment, le... comment dire, la volonté de servir l'intérêt général, le bien commun, elle a disparu de nos élites, mais elle s'est aussi grandement délitée dans la population, et qu'aujourd'hui, en effet, cette victoire de l'individualisme, elle a atteint un peu toutes les catégories et toutes les classes sociales, alors peut-être pas dans la même profondeur, mais on ne voit pas beaucoup de réactions populaires face à ce délitement, et même on voit parfois des choses hallucinantes, comme tous ces anciens politiciens corrompus jusqu'à l'os, qui bénéficient d'une popularité délirante. Alors on pense évidemment au faux bagnard là, Nicolas Sarkozy, qui vend des centaines de milliers de bouquins à des crétins qui le prennent pour un martyr de la République. On peut penser aussi à l'ineffable maire de Levallois, enfin qui ne l'est plus, mais qui reste toujours dans l'ombre des élections, Patrick Balkany, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on leur présente des gens dont il est avéré, prouvé qu'ils ont piqué dans la caisse, qu'ils les ont volés, qu'ils leur ont menti, et ils sont contents, et ils sont prêts à revoter ou à soutenir ces personnages-là. Donc ça, c'est aussi assez inquiétant, et je pense qu'en effet, ça révèle un problème qui va au-delà du politique, c'est celui d'une transformation psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de croyance en un avenir collectif. Ils ne pensent que en termes au mieux familial, au pire de l'individu. Et dans ce cas-là, tous les moyens sont bons pour sauver sa tête ou celle au mieux de sa famille. Et donc, toutes ces espérances collectives, elles ont disparu. Donc, on n'est pas choqué que nos élites, en fait, finalement, fassent la même chose.
Ah oui, mais quand l'argent, pardon.
Allez-y, je regarde.
Non, mais quand l'argent est le seul maître étalon de tout, effectivement, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que la religion ayant disparu de notre pays, quelle est actuellement la religion? C'est le veau d'or, c'est l'argent. Et l'argent, par tous les moyens, et même légaux, mais surtout illégaux, en fait. C'est-à-dire que les gens, et il y a rien de pire que d'entendre quelqu'un dire, bah, à sa place, je ferais pareil. Ben non, à sa place, moi, j'espère que je servirai les miens. Mais les miens dans le sens mon peuple, et ça c'est quelque chose, servir au lieu de se servir, c'est quelque chose qui a totalement disparu, mais ça a disparu pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de projet commun, plus de projet collectif, et que les seuls projets, dorénavant, on n'est que sur du calcul. Tous les grands projets qui ont été menés ces dernières années par l'État français, où on a... mobiliser une grande somme d'argent. Si on parlait de corruption tout à l'heure, si on analysait projet par projet, qui était impliqué, quels sont les gens, il y a toujours une ombre de la suspicion. Et pourquoi il y a cette ombre de la suspicion ? C'est qu'elle est bien souvent légitime. On parlait de cette usine pour produire des verres alimentaires qui vient de mettre la clé sous la porte. On parle de centaines de millions d'euros engloutis, dizaines de millions engloutis.
Jean-Bernard Nice, c'est marseillais.
Elle a bouché le vieux port. Non, mais on parle d'argent englouti, on parle d'emplois perdus et surtout d'un gaspillage énorme.
D'argent perdu, pas pour tout le monde, à mon avis. Parce qu'en effet, c'est ça le problème, c'est que on a poussé ce projet de façon délirante. On en parlait, ça faisait la une des journaux. Il y a énormément d'argent public qui a été investi. Il y a sûrement dû avoir des enquêtes sur la viabilité du projet, etc. Donc que ça s'effondre aussi vite et aussi rapide, des audits. Voilà, des audits menés par McKinsey pour vérifier la prospective, la réussite possible de ce projet. Or, il s'effondre en quelques mois. C'est pas normal. Là, on peut en effet avoir un soupçon de corruption doublé d'un soupçon d'incompétence qui commence à faire beaucoup.
Non, mais surtout dans un pays où on a la moitié des agriculteurs qui vont qui vont être à l'âge de la retraite à l'aune de 2030, grosso modo. Donc, un grand plan pour nourrir la population française est plus qu'indispensable. Mais c'est pas en créant des usines de vers de terre qu'on va le faire. Alors qu'on est une terre bénie des dieux, bénie du dieu peut-être, Après, chacun l'appellera comme il veut. Mais non, mais on a une terre riche d'un terroir exceptionnel, avec un littoral. On a tout pour pouvoir nourrir notre population et on décide de créer ces usines de vers de terre. Ça a même pas de sens. Et en plus, ça rebute tout le monde.
Ah oui, mais c'est une aberration totale, évidemment, à tous les points de vue.
François Charmeau. Peut-être quand même, pour continuer à incarner l'étiquette du communiste autour de cette table, je voudrais me faire un petit peu l'avocat du diable sur ce que vous disiez, Xavier, à propos du désintérêt finalement de la population de toutes ces questions et du côté extrêmement individualiste qu'on peut constater chez nos concitoyens. Alors, effectivement, je partage le constat. Peut-être quand même qu'il est bon d'aller chercher, d'essayer de comprendre les causes. Et je crois que malheureusement, on commence à connaître de plus en plus des générations et une population qui a vraiment subi de plein fouet la crétinisation, mais qui a été pour le coup imposée et qui est venue d'en haut. Je veux dire, la télévision dans les campagnes, c'est pas les paysans qui l'ont installée. Enfin, ils l'ont achetée parce qu'on leur a dit de l'acheter. Donc, on commence finalement à constater que ce qu'on nous a vendu comme le progrès, eh bien, porte ses fruits et en fait une formidable régression intellectuelle, grammaticale,
les réseaux sociaux,
culturelle. Je veux pas tomber, je suis sans doute le plus jeune autour de la table, donc je veux pas tomber dans c'était mieux avant, mais il n'empêche que peut-être qu'avant on savait lire quand même, et que petit à petit, effectivement, quand on avilit l'homme, on le rapporte. Je voudrais pas non plus rentrer dans des considérations trop spirituelles, mais en avilissant en permanence l'homme, en le ramenant en permanence à sa condition animale, pense à bien manger, à bien dormir, à passer voilà un bon moment avec son épouse. Au bout d'un moment, à force de jouer en permanence sur les instincts animaux, on a supprimé complètement toute forme de conscience et on commence gentiment à toucher du doigt les fruits que ça porte. Et c'est peut-être ça qui est le plus effrayant.
Oui, mais en fait, on parlait de l'individualisme dans la société. Après, on disait dans l'effondrement de l'État, on recase les copains, chacun... Enfin, il y a un moment, en fait, le personnel politique, il n'est pas issu de nulle part. Il est, enfin, s'il est individualiste à la base, à fortiori, on va retrouver à la tête de l'État des individualistes. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est structurellement quelque chose de choquant de se dire que le président de la République, Emmanuel Macron, puisque c'était un peu lui qu'on mettait en cause au début de la discussion, est-ce que c'est structurellement un problème que le président de la République nomme l'ancienne ministre au compte public, Amélie de Montchalin, à la Cour des comptes? Moi, ça me... Si on croit en la force de l'État, moi, pour moi, là où il y a une volonté...
Objectivement...
Je pense pas que ça soit un problème de virtuosité du système.
Objectivement, si on regarde les institutions telles qu'elles ont été pensées au moment de la rédaction de la Constitution, si on met de côté toute forme d'idées, etc., et qu'on se remet purement à 58, oui, c'est choquant. Oui, c'est choquant, puisque la Cour des comptes est censée être un organe indépendant de contrôle de l'État. Comment on fait pour contrôler un budget et c'est bien fait quand moins d'un an avant on a contribué à l'écrire.
Après, on peut considérer que c'est choquant de vénérer la séparation des pouvoirs, mais
je dis pas que ça l'est pas. C'est pour ça que j'ai précisé que je le faisais en lisant simplement la Constitution, mais sur le papier qu'on nous vend, qu'on nous force à avaler, à accepter, oui, ça l'est.
Et puis en plus, pour quel résultat ? Je veux dire, Amélie de Montchalin, c'est pas la personne qui a rétabli les comptes de la France, qui a résorbé la dette et qui a permis aux fonctionnaires de mieux vivre. Je veux dire, si on avait quelqu'un, on nous parle tout le temps du Mozart de la finance. Bon, très bien, mais pour quel résultat ? La France s'est jamais aussi mal portée, il n'y a jamais eu autant de pauvres dans ce pays. La dégradation du classement PISA, où on parle du niveau de l'éducation en France, ça devient comique de voir à quel point on dégringole chaque année. La France se situe mal, et de plus en plus mal, sur tous les indicateurs. Et là, on va nommer à des postes stratégiques, donc là, en l'occurrence, cette Cour des comptes, quelqu'un qui n'a pas fait preuve de sa compétence. Déjà, sur le principe, c'est choquant, mais si encore on avait quelqu'un qui avait été très bon dans son ministère, on se disait, bon, là, on a quelqu'un qui a brillé, et en fait, on va lui donner un poste pour verrouiller cette position, parce que c'est quelqu'un qui est qui est légitime, qui est efficace dans son domaine. Non, là, on donne ce poste, c'est de la fidélité, c'est de l'amitié, et c'est pas de la compétence. Donc, il n'y a aucune excuse.
Très bien. Mais Emmanuel Macron, du coup, s'ingère dans les affaires de l'État en nommant cette fameuse Madame de Montchalin, je pense qu'on en a assez parlé. Il veut aussi une peine d'inéligibilité obligatoire pour les élus coupables d'actes et de propos antisémites et racistes. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'était encore une fois délirant. Pourquoi cela et pas d'autre ? C'est-à-dire qu'on estime que c'est le pire crime du monde.
Voilà, vous avez fait la transition entre la corruption et...
C'est, on peut être corrompu et se représenter, donc ça c'est pas un problème. On peut être violeur ou agresseur sexuel et au bout de quelques années, une fois qu'on a purgé sa peine, se présenter. Mais par contre, là il faudrait systématiquement... en plus, il faut bien comprendre de quoi on parle. Un délit aujourd'hui d'antisémitisme ou de racisme, ça veut dire quoi ? On sait qu'on a une acceptation aujourd'hui extrêmement large de ces deux concepts. Et c'est bien là le danger.
Macron a parlé du poison de la haine numérique, donc
Il y a des gens qui considèrent que le fait de dire qu'il y a trop d'immigrés en France, c'est que c'est quelque chose de raciste, par exemple. On pourrait être condamné pour ça, et donc en disant ça, on pourrait être condamné à ne plus pouvoir se présenter. C'est extrêmement dangereux d'un point de vue de la liberté de parole, de la liberté de penser, de la liberté politique. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots ? Je rappelle qu'on est en train de faire passer une loi, en tout cas qui est une proposition de loi, qui voudrait que toute critique de l'État d'Israël soit considérée comme de l'antisémitisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui critiquerait l'État d'Israël n'aurait plus le droit de se présenter à une élection parce qu'il serait considéré comme antisémite. Mais ça va s'arrêter où ? Donc c'est éminemment dangereux, c'est même totalement fou dans un pays qui se gargarise par ailleurs d'être le pays de la liberté, de la liberté d'expression, etc. Ce serait un pas vers, pour le coup... un retour en arrière terrible en termes de liberté. C'est totalement aberrant. Alors après, j'espère que c'est juste encore une de ces foucades et que ça me paraît pas tenable, parce que là vraiment on marcherait sur la tête complètement.
Et puis surtout, on s'arrête où? Ça commence par le racisme et l'antisémitisme, donc déjà j'ai jamais compris la distinction entre les deux, première chose. Et deuxième chose, après, est-ce qu'on rajoute la grossophobie, le validisme? Vu qu'on est de plus en plus, on le voit dans les entreprises. Dans les entreprises, dorénavant, on a dans le cadre des programmes dits ESG, donc c'est tout ce qui est développement durable et ce genre de choses. On a toute une politique où on nous dit il faut faire attention, donc la sexation de la transsexualité, on va avoir l'intégration des personnes non valides, on va avoir l'intégration de tout, donc où s'arrête après la discrimination? Si elle commence sur ce terme de racisme, on peut l'ouvrir. Il y a combien, 27 champs de discrimination, même le fait de la glottophobie,
la chauvophobie.
Ça peut être beaucoup. Oui, non, mais ça fait partie des choses qui sont
capillarophobie.
Mais ça fait partie. Donc où on s'arrête en fait?
C'est peut-être. Si on essaye de comprendre en tout cas ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, c'est peut-être tout simplement un petit calcul politicard, comme il sait très bien les faire, pour essayer de disqualifier le plus possible ses deux adversaires, en tout cas désignés comme étant les deux adversaires principaux, la France Insoumise et le Rassemblement National, tout simplement. C'est une volonté d'étouffer gentiment les
oppositions.
Pour vous,
ça participe pas du verrouillage institutionnel dont on parlait juste avant?
Non, ça participe d'une manœuvre assez grossière et ridicule, mais qui va peut-être d'ailleurs finir par fonctionner, parce que tout le monde se prend à ce jeu-là, y compris le Rassemblement National. Et c'est sans doute, ce genre de proposition, c'est la conséquence aussi de la mièvrerie de partis comme le Rassemblement National, qui ont été incapables d'assumer des positions fortes sur ces questions, contrairement, il faut le dire, contrairement peut-être à la France Insoumise qui a jamais eu de pudeur de gazelle pour assumer des positions assez fermes et dures, notamment sur la question d'Israël, qui est un très bon exemple. Et tant qu'on n'aura pas de partis qui seront capables de tenir une position ferme en disant non, effectivement, on a le droit de critiquer l'État d'Israël, et donc, effectivement, la question sioniste, ça fait pas de nous spécialement des antisémites ou des néo-nazis. tant qu'on ne sera pas capable de porter une voix politique ferme, tant qu'on sera dans une logique en permanence d'excuses, d'acceptation, de rabaissement personnel, bref, de position médiatique, de dédiabolisation. Mais effectivement, on prêtera le flanc à ce genre de mesures. Et je ne serais pas étonné que le Rassemblement National soutienne une bêtise pareille.
Mais vous savez, peut-être que Bruno Retailleau, qui vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, toutes les droites, tous les talents, va sortir la tronçonneuse comme Javier Milei et mettre un peu un coup de balai dans les écuries d'Ogias. Vous n'y pensez pas, Xavier Le
Taillon ? Non, mais j'attendais cette annonce avec une impatience que vous... que vous imaginez, vu sa grande efficacité déjà à la tête du ministère de l'Intérieur, vraiment, je pense que c'est une grande nouvelle et ça va soulever les foules de droite vont être ravies de cette candidature. Mais, c'est tellement anecdotique que je vois même pas tellement de commentaires à faire. Il a essayé d'aller plus vite que les autres pour éviter les questions des prix de primaire à droite, etc. Mais bon, ça fait rigoler tout le monde, je pense, à peu près tout le monde, non? Non, ça ne me fait pas rigoler.
Non, moi, ça me fait pas du tout rigoler, vous savez, non. Non, je pense que de toute façon, on aura le temps de refaire des émissions sur la présidentielle 2027 qui s'annonce assez piquante. Et avant, c'est toujours très drôle de voir les couteaux s'aiguiser à droite entre, il va y avoir Knafo, Wauquiez, Bardella, Retailleau.
Le casting vraiment laisse rêveur quand même. Hein.
Oui.
Le mythe de l'homme providentiel.
Le maire, comment il s'appelle
celui... Bruno Le Maire.
Non, pas Bruno Le Maire.
Édouard Philippe.
Non, le président de l'Association des maires de France.
Ah, David Lisnard.
Lui aussi, il va y aller, non?
Et puis l'ancien président François Baroin aussi aimerait bien, je crois.
Ouais, bon, ça fait,
Dominique de Villepin.
Ça fait beaucoup de monde. Je vais juste terminer cette émission parce qu'il nous reste vraiment deux petites minutes pour inviter les Français à... Enfin, les Français, les catholiques français, je m'adresse aux catholiques français, mais je reprends une déclaration de la Conférence des évêques de France qui, pour une fois, fait quelque chose qui rentrent dans leur champ de compétences. Il y a les débats sur la fin de vie à l'Assemblée nationale qui ont repris, qui reprennent demain. Il y a clairement le texte va passer sur une aide active à mourir. Et les évêques de France invitent les catholiques de France à une journée de jeûne et de prière le premier vendredi de carême. Je pense que c'est une bonne initiative. Que la France, terre bénie des dieux ou du dieu unique en trois personnes, c'est ce que je pense, a vraiment besoin de la prière des catholiques, si on veut un peu résister dans cette société individualiste, il faut peut-être repenser notre rapport à la société et à la religion, et que sur ces bases saines, on pourra mettre en place une volonté politique telle que nous la souhaitons tous autour de ce micro pour le bienfait de la France et des Français. Je souhaite une excellente soirée à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, à Xavier Aimant, François Charmeau, Jean Hernis, ainsi que Jocelyn à la technique, que je remercie. Bonne soirée à tous.
Vous venez d'entendre Livre au journal de Benjamin Blanchard, dirigé successivement par Benjamin Blanchard puis Adrien Renoir, diffusé sur Radio Courtoisie et samedi 14 février 2026 de 18h à 21h, et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.